Le premier chant qu'on a élevé ensemble, Debout Sainte-Corte, je réfléchissais à une expérience faite. Vous savez à quel moment est le plus difficile de combattre? Selon vous, quel est le moment le plus difficile du combat? Hein, parce qu'il dit debout, le soleil arrive. C'est réellement quand on sort de la nuit, quand on arrive vers la fin du combat, on sait que la fin est proche, c'est là qu'il faut serrer les dents. Il faut aller jusqu'au bout et pas seulement, il y a le fait de voir la fin du combat arriver, il y a la fatigue aussi qui est là. Et autant qu'enfant de Dieu, on sait que le Seigneur est proche. Et c'est normal que nous sentions aussi la fatigue du combat qui dure depuis un certain temps, même je dirais depuis un temps certain. Mais il est question pour nous de redoubler d'efforts, dit ce chant. Alors j'aimerais avec vous partager une pensée, parce qu'on pourrait se dire, Seigneur, pourquoi les combats, pourquoi les épreuves, pourquoi les difficultés? Donc le thème de notre partage d'aujourd'hui, c'est pourquoi le chrétien est-il éprouvé? Peut-être que le sujet ne vous touche pas, ça sera pour vous une information. Mais dans le cas où la vie de chacun est éprouvée, nous pouvons aussi comprendre pourquoi le Seigneur le permet-il. Quel est le but de l'épreuve? Alors j'aimerais partager différents textes de la parole de Dieu, mais le premier se trouve dans le psaume 139, à partir du verset 23 et le verset 24. Psaume 139, versets 23 et 24, nous l'avons certainement souvent dit dans nos prières. Nous l'avons très probablement même chanté dans nos chants. Mais, excusez-moi, parfois avec légèreté, on passe au chant suivant sans analyser ce que nous venons de chanter, ce que nous venons de prier. Quand on prie, est-ce qu'on croit que Dieu nous entend? Oui? Et vous savez, parfois on dit au Seigneur, Seigneur, oui, vous savez ce chant qui dit, oui, prends tout Seigneur. Prends mon cœur, prends mon âme. Et quand Dieu nous dit, vas-y, allez, donne-moi ton cœur, donne-moi ton âme, donne-moi ton temps. Ah ben Seigneur, pas là, pas là, pas là. Surtout pas, tu sais, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et ça nous remet en question par rapport à nos paroles, par rapport à nos chants, par rapport à nos engagements. Le psalmiste dira, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Jusque-là, ça va. Mais après, il continue en disant, éprouve-moi. Et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La version Semeur dira sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce qu'on est prêt à dire au Seigneur, sonde nos pensées? Connais mon cœur, Seigneur. Parce que ce qui nous travaille beaucoup, ne sont-ils pas nos pensées? Souvent, nos combats sont déjà dans les pensées. Notre combat n'est pas souvent physique, comprenons bien. C'est déjà les soucis, les problèmes, les difficultés, c'est un combat permanent. Et parfois, même la nuit, ça nous empêche de trouver le bon repos. Les problèmes s'entassent, deviennent comme un millefeuille. Et comment trouver la solution? De quelle manière sortir de quelque chose qui nous semble trop grand pour nous? Alors le psalmiste dira, sonde-moi, ô Dieu. Parce que le désir du psalmiste n'était pas celui de se laisser amener par ses pensées à rentrer dans un combat que Dieu ne lui demandait pas. Pourtant, David, ce psalmiste, se retrouvait quand même, ce roi se retrouvait face un roi qui voulait sa vie. Dieu l'avait oint. David, il n'avait rien demandé. Qu'est-ce qu'il faisait, David, avant d'être oint roi? Il était tranquille, David. Il aurait pu se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là, laisser mes brebis? J'étais tellement tranquille. J'avais un travail de fonctionnaire. Ça fonctionnait bien. Il s'occupait de ses brebis. Il avait du lait frais, il avait du fromage. Et si un lion ou un ours venait, il savait ce qu'il avait à faire. Et Dieu l'amène à une étape qui n'était pas celle que lui, il imaginait. Et autant qu'enfant de Dieu, est-ce que Dieu a le droit de nous amener dans une autre étape? Oui, mais ça veut dire aussi que chaque étape de notre vie nous amène forcément à certaines épreuves. Parce que Dieu veut aussi nous permettre de voir où en est notre cœur. Tout à l'heure, je disais dans ma prière, et je voyais vraiment cette image de cette œuvre qui est faite, c'est la charrue, hein, qui creuse dans la terre et qui fait remonter. Et tout ce qui remonte, ce n'est pas toujours ce qu'on a envie de revoir. Peut-être c'est des choses qu'on a fouillées au fond de notre vie et on a couvert avec la terre. On s'est dit, là, personne ne le verra. Même moi, je ne le verrai plus. Et après, il y a un moment où la parole de Dieu vient et il fait ressortir ce qui ne va pas parce que ça pollue notre cœur. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mes pensées, considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Alors, est-ce qu'on est prêt, pas seulement à examiner les Écritures, mais aussi à entamer le processus? On va le faire ensemble. Dieu sonde. Et il nous sonde sous tous les aspects de notre vie, pour nous permettre de grandir et de mûrir spirituellement. Et ça commence par la vie intérieure. Le psaume 17, verset 3, il dit, « Tu sondes mon cœur, tu le visites la nuit, tu m'éprouves, tu ne trouveras rien, ma parole ne dépasse pas ma pensée. » C'est merveilleux de pouvoir dire cela, n'est-ce pas? Mais on peut le dire si c'est le cas. Est-ce que parfois, nos paroles ne dépassent pas nos pensées? Parfois, on parle plus vite qu'on pense. Ou on pense moins vite qu'on parle. Est-ce qu'on n'a pas besoin que Dieu nous aide là aussi, dans un changement d'une vie intérieure? Est-ce qu'on n'a pas besoin que Dieu nous amène? Alors, comment Dieu le fait? L'épreuve est un moyen pour changer, pour modifier notre vie, pour transformer notre être. Est-ce que vous connaissez l'épreuve de la tempête? On va lire un texte et vous allez tout de suite réaliser que oui, vous avez certainement déjà été testé de la sorte. Luc chapitre 6, versets 47 à 49. Évangile de Luc chapitre 6, versets 47 à 49. Il nous dit, « Tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est roué contre cette maison sans être capable de l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est roué contre elle, aussitôt elle s'est écroulée et la ruine de cette maison a été grande. » Est-ce que on est peut-être aujourd'hui même dans l'épreuve de la tempête? Non? Voyez le petit drapeau? Vous savez, comme on voit quand il y a une tempête, c'est que le drapeau, il se coupe pas mal. Est-ce que, à quelque part, que nous soyons chrétiens ou pas, est-ce qu'on n'est pas tous maintenant dans la tempête? Et qu'est-ce qui va faire la différence? Alors, je disais tout à l'heure, est-ce que, parfois, est-ce que nos paroles ne dépassent pas nos pensées? On peut parfois exprimer des choses sans dire, « Seigneur, qu'est-ce qui est bon de dire ? » De quelle manière, Seigneur, je peux, à quelque part, prouver que, Seigneur, j'ai construit, bâti ma vie sur le rocher ? Le texte dit « Une inondation est venue. Un torrent s'est roué contre les maisons. Il y en a une qui n'a pas été branlée parce qu'elle était bien bâtie, mais les mêmes tempêtes, les mêmes intempéries, je dirais même dans le même temps, l'autre maison a malheureusement essuyé une défaite complète. Pourquoi ? Parce qu'elle n'était pas bâtie sur quelque chose de solide. Est-ce que vous avez déjà vu une maison penchée ? Moi, je me rappelle d'un monsieur qui a bâti une maison à 3 étages sur un flanc de montagne. Il a construit sa maison et au bout d'un an, il mangeait la soupe, mais avec difficulté. Pourquoi ? Parce que la maison s'était tellement inclinée que tout était en biais. Alors vous imaginez vivre dans une maison où vous êtes en biais. Allez-y pour mettre les tableaux à niveau. Et au bout d'un certain temps, cette maison a été considérée inhabitable, dangereuse. Et cet homme, il pleurait parce qu'il avait tout mis, ce qu'il avait économisé pendant des années pour bâtir cette maison. Et la maison, extérieurement, elle était magnifique. À l'intérieur, il avait choisi des beaux matériaux. Mais le problème, c'est le fondement. Et s'il n'y a pas de tempête, toutes les maisons peuvent sembler belles. Ceux qui ont fait des sacrifices pour bâtir sur le roc ne pourront jamais dire « mais j'ai bien fait de faire ainsi ». Il y a plusieurs années de cela, j'étais enfant, je me rappelle qu'une nuit on a été réveillé parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Et suite à ce tremblement de terre, beaucoup de maisons sont devenues inhabitables. Et à partir de là, l'État a décidé de mettre des règles beaucoup plus rigides. Et quelques années plus tard, j'ai travaillé dans une société où, en effet, ils avaient créé un logiciel qui simulait les tremblements de terre. Alors, les ingénieurs, avant de donner l'accord pour la construction d'une maison, ils testaient pour voir si la maison allait résister jusqu'à quel point. Et c'était étonnant de voir, une fois que tout a été mis dans le logiciel, de voir de manière visuelle ce qui allait se produire s'il y avait un tremblement et comment la maison aurait résisté. Et de là, ils ont compris que si une structure était trop rigide, elle est cassée. Il fallait laisser une partie, je dirais, de malléabilité. Est-ce qu'on se rend malléable entre les mains de Dieu ? Ou est-ce qu'on est rigide dans nos positions ? Est-ce qu'on est rigide dans nos idées ? Est-ce qu'on est rigide dans nos critères ? Parce que si c'est le cas, quand la tempête vient, tout est balayé. Mais pour celui qui prend le temps de bâtir sur le roc, il se rend compte que la surface sur laquelle est bâti est beaucoup plus résistante que lui. Non ? Une chose, c'est creuser un sillon dans un mur en parpaing. Une chose, c'est le faire sur du rocher, croyez-moi. Ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait. Et parfois, on ne pourra pas aller plus loin parce que le rocher est dur. Par contre, on a la certitude que quoi qu'il arrive, on sera assuré par le fondement. Et moi, je crois que si même parfois les règles que Dieu nous impose peuvent nous sembler dures, elles sont là pour nous protéger au moment venu, n'est-ce pas ? Alors j'ai besoin de rendre ma pensée malléable et dire, Seigneur, non pas ma pensée, mais la tienne. Comment savoir si j'ai pris la bonne décision ? Comment faites-vous à savoir si vous avez pris la bonne décision ? Est-ce que la paix est dans mon cœur ? Ou est-ce que j'ai pris une décision parce que j'ai sauté sur une situation, j'ai accepté les circonstances, et ça veut dire qu'à quelque part, je ne suis pas certain que ce soit la volonté de Dieu. C'est les opportunités. Dieu ne nous apprend pas à être des opportunistes. Mais il nous apprend à placer notre cœur dans la foi, dans la confiance, et construire notre vie à l'épreuve des tempêtes. Et je dirais que les tempêtes nous permettent de voir où on en est avec la construction de notre cœur et de notre vie. S'il y a quelque chose qui a bougé, le Seigneur nous invite à retravailler le sujet. Peut-être que l'année dernière, on peut en parler puisqu'elle est passée, il y a des choses dans votre vie qui ont été secouées, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des points sur lesquels vous croyez que c'était bien bâti, mais aujourd'hui, les résultats font que vous dites peut-être qu'il y a des points encore sur ma vie personnelle que je dois travailler. Est-ce que je fais confiance à Dieu à 100%? Est-ce que je laisse Dieu me conduire dans toutes les décisions? Est-ce que j'interpelle Dieu avant de donner ma réponse? Vous savez, la réponse qui part plus vite que la pensée. Et des questions comme ça, on peut s'en poser plein et ça nous regarde d'une manière personnelle. Mais je crois aussi que Dieu permet ces épreuves pour nous affiner. Alors, on est dit, Seigneur, voilà, affine-moi, je voudrais être un chrétien, pas un chrétien de nom, mais un enfant de Dieu affiné. Non? Oui ou non? Vous me direz tout à l'heure. Zacharie, chapitre 13, verset 9. Regardez comment Dieu nous affine. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le ferai fondre comme on fait fondre l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est lui qui est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Amen. Je voulais vous dire que quoi que nous soyons en train de vivre, nous sommes dans ce processus d'affinage. Amen. Je vous ai posé la question tout à l'heure, vous avez dit tous, oui, on veut être affiné. Mais d'un coup, quand on est arrivé, je mettrai un tiers dans le feu, j'ai senti quand même une petite crispation. C'est normal. Parce que le feu, ça brûle, ça chauffe. Mais le feu, ça révèle. Ça révèle la réalité du fond du cœur. Non ? Parce que tout ce qui n'est pas pur est amené à se consommer. Et vous savez, encore une fois, dans l'affinage des métaux, ce qui se passe, c'est que quand ça arrive à la bonne température, tout ce qui est impur remonte. Et c'est là que celui qui travaille les métaux, surtout des métaux je dirais de valeur, il fait tout pour enlever ses impuretés. Est-ce qu'on veut que le Seigneur enlève les impuretés de notre cœur, de notre vie? Elles vont remonter. On a beau faire ce qu'on veut, la température, elle va monter et les impuretés vont remonter. Ah, mais Seigneur, ça, je l'avais oublié. Et Dieu nous dit, moi pas. Moi, je ne l'ai pas oublié. Processus d'affinage. Malachie, chapitre 3, verset 3. Il dit, il siégera tel celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils seront pour l'Éternel ceux qui amènent l'offrande avec justice. Malachie, chapitre 3, verset 3. Si en Zacharie, on a lu, il invoquera mon nom et je l'exaucerai, c'est lui mon peuple, et eux ils diront, l'Éternel est mon Dieu. Là, il nous amène dans une autre étape, parce que le but pour nous, c'est quoi? C'est être de ceux qui amènent l'offrande avec justice. Venir à Dieu avec des mains pur, avec un cœur pur. Et là, je suis certain que quel qu'il soit le chant qu'on va chanter, on est convaincu de ce qu'on est en train de chanter. Un jour, quelqu'un m'a dit, vous savez, vous avez chanté un chant, je ne peux pas le chanter. C'est trop pour moi. Oh, prends mon âme. Prends-la, Seigneur. Hein? Il est merveilleux ce chant, magnifique, mais lisons bien les paroles. Et quand on les lit, on se dit, ouais, là c'est bon, mais oh, pour arriver à la deuxième strophe, déjà ça coince un peu à la troisième. Et le Seigneur ne veut pas que nous apportions une offrande dans laquelle, en effet, nous ne sommes pas en ordre. L'offrande avec justice. Pourquoi Dieu permet, pourquoi le chrétien est-il éprouvé? Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons certes son peuple, mais que nous puissions, frères et sœurs, amener une offrande avec justice. Qui réfléchit, qui pense déjà au moment où on sera devant le Seigneur? Est-ce qu'on est prêt? Moi, je me dis qu'on est tous les jours en phase de préparation. Hein? Mais tôt ou tard, il faut bien que le gâteau sorte du four. On ne peut pas être tout le temps en phase de préparation parce que ça veut dire alors qu'il y a quelque chose qui bloque quelque part. Est-ce qu'on est prêt à rencontrer le Seigneur? On ne sait pas à quel moment le Seigneur nous demandera de le rencontrer. Aucun de nous peut savoir. Aujourd'hui, on est là, demain, Dieu sait. Mais est-ce que je suis prêt à rencontrer le Seigneur? On a dit tout à l'heure qu'on sait que le Seigneur revient bientôt. Alléluia! Combien de temps nous reste-t-il? On ne peut pas estimer, on ne peut pas dire. Par contre, une chose est certaine, c'est que plus le temps passe, moins il y en a. Ça veut dire que je ne dois pas perdre de temps. Aujourd'hui, le Seigneur me demande d'être en ordre. Amen. Est-ce que nous sommes prêts pour cette épreuve finale? Il dit 1 Corinthiens chapitre 3 verset 13. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 13. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Il y a quelque chose qui va nous révéler aux yeux du monde, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Peut-être que par moment, on est obligé de vivre notre foi dans le secret, comme il y a beaucoup de frères aujourd'hui et de sœurs qui vivent leur foi dans le secret. Pourquoi? Parce que malheureusement, ils n'ont pas la liberté que nous avons. Et c'est pour cela que quand ils apprennent que nous qui avons la liberté, nous restons dans le secret, ils ne comprennent pas. D'ailleurs, est-ce qu'on peut le comprendre? Je ne crois pas. Mais la parole de Dieu nous amène, frères et sœurs, à chacun de nous à examiner notre vie. Que nous ayons déjà fait le pas d'accepter le Seigneur, ou pas, chacun d'entre nous devra rendre des comptes à Dieu et dire « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ?» de toutes les fois où tu m'as appelé, tu m'as parlé et tu m'as conduit à examiner mon cœur, à me rendre compte que j'ai besoin de toi. Je me rappelle d'une manière très personnelle de la manière où Dieu m'a parlé. J'ai entendu la prédication de l'évangile dès le berceau, je suis tombé dans la marmite. Je suis né et mon premier mois, je l'ai fêté... Entre guillemets, on était aux missions. J'ai grandi avec ça. Toutes les histoires, je les ai entendues, racontées et tout, mais une chose, c'est les entendre, une chose, c'est de les réaliser. Et malgré tout cela, j'ai pris des chemins détournés. Et il a fallu qu'à un moment, Dieu me rappelle et me montre exactement où j'étais en train d'aller. Et je me suis retrouvé dans une vision, je me suis retrouvé face à un précipice. Et à ce moment-là, Dieu m'a fait comprendre que j'avais devant moi le choix de la vie ou de la mort. Si je suis là, c'est que j'ai choisi la vie. Mais ça voulait dire aussi d'accepter, d'abandonner l'ancienne vie, parce que l'ancienne vie m'avait amené vers la mort. Et vous savez, il y a un moment où on sent que c'est le dernier choix. Bien des fois, le Seigneur m'a amené à ce choix. Combien de fois la parole de Dieu m'avait interpellé. Mais après, j'ai refermé mon cœur et je suis reparti. Ou j'ai peut-être dit oui, rapide, et en sortant de l'église, je suis reparti dans mes pensées. Jusqu'au moment où le Seigneur nous dit maintenant, tu vois, c'est la dernière occasion. 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 9, il dit, béni, 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 9, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous, vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous, vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Amen. Est-ce que je peux vous donner une image? Si je reprends dans l'histoire, quand quelqu'un revenait vainqueur d'une bataille, en réalité, il amenait avec lui ceux qu'il avait vaincus. Ils étaient amenés devant le roi et ceux qui étaient vaincus étaient obligés de s'incliner et justement de se déclarer vaincus. Mais ceux qui avaient combattu le combat étaient reçus par la foule, étaient reçus par le roi comme des vainqueurs, n'est-ce pas? Vous voyez un peu l'image? Il y a un moment où l'ennemi de nos âmes, il va devoir se déclarer vaincu parce qu'il le sait déjà qu'il est vaincu. N'est-ce pas? Il sait très bien quelle est la fin qui lui est réservée à lui et à tous ceux qui l'ont suivi. Cette fin, elle est indiquée dans la parole. Cette fin, elle est bien indiquée pour tous ceux et celles qui n'ont pas voulu de Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui n'ont pas voulu faire de Jésus leur roi. Cette fin, elle est horrible, parce qu'ils seront séparés éternellement de Dieu. Mais pour ceux qui ont choisi, oui, certes, de vivre des épreuves, mais ils en sont sortis vainqueurs par le secours, par l'action de Dieu, parce que Jésus-Christ est là et il est présent et il combat avec nous, à nos côtés et pour nous, comment ils seront reçus dans le ciel? Vous avez peur de le dire? En vainqueur. Alléluia. Et c'est là qu'il y a bien des chants qui, quand on les chante, ça remplit nos poumons. Vous voyez ce chant? À toi la gloire, ô ressuscité. Non? Et on se voit marcher vers la présence de Dieu. On se voit arriver devant le trône de Dieu. Et on a à cœur d'entendre cette parole qui dit « Rentre, mon bon et fidèle. » Alléluia! Rentre dans la joie de ton maître. Ah Seigneur, plus de combat. Alors oui, debout Sainte-Cohorte. Et il termine en disant « On va déposer nos armes aux pieds du roi des rois. » Imaginez un lendemain sans plus de combat. Je sais que vous n'en avez pas des combats. Mais imaginez avoir des combats. C'est sûr, ce n'est pas trop difficile. Imaginez de ne plus en avoir. C'est comme quelqu'un qui a tout le temps mal à la tête. Tout le temps. Et le jour où ce mal de tête n'est pas là, eh bien c'est incroyable, étonnant. Ça transforme, n'est-ce pas? Imaginons ce moment où on va être devant le Seigneur. Alors comment on va pouvoir se présenter devant Dieu? Je voudrais vous encourager à retenir que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de place pour ceux qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Puisqu'on l'a lu, afin que votre foi éprouvée, afin que votre vie éprouvée, à un certain moment, cette foi, c'est ce qui va nous permettre, frères et sœurs, de nous approcher du Seigneur. On termine par une dernière lecture dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, les versets 17 à 22. Apocalypse chapitre 3, versets 17 à 22. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Il est question pour nous, frères et sœurs, de vaincre. De vaincre, certes, sur l'ennemi, mais de vaincre aussi sur nous-mêmes. Je crois qu'un des ennemis les plus redoutables dans notre vie, c'est nous-mêmes. N'est-ce pas ? Et on peut comprendre pourquoi le Seigneur veut aussi nous aider à vaincre ce nous-mêmes, afin que ce nous disparaisse et Christ apparaisse. Je sais que je vous ai déjà donné cette image, mais je voudrais juste vous la rappeler. Dans le temps, ils n'avaient pas de thermostat pour vérifier quand l'or était pur. Et le fondeur, il regardait sur le creuset. Et en effet, quand l'or était arrivé à la bonne température et qu'il était pur, le visage du fondeur se voyait comme dans un miroir. Est-ce que Christ peut se voir en nous comme dans un miroir? Peut-être qu'encore il y a besoin de monter un peu de température au Seigneur. Pas trop. Et je crois que Dieu a pas seulement la main sur la température, mais Dieu sait aussi comment nous y amener parce qu'il a aussi la montre. Et le temps appartient à Dieu. Même si parfois le temps nous semble long, imaginez le processus que Dieu a mis en route pour nous amener à être prêts pour son retour. Amen. Et s'il devait faire tout en 2 jours, alors le thermostat, il en prend un coup. La température, elle monte trop vite. On pourrait dire, Seigneur, c'est trop, je ne peux pas, j'y arrive pas. Mais Dieu sait et il est patient parce qu'il use de grâce. Néanmoins, il nous invite, vous et moi, puisqu'il nous dit « je te conseille » d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Amen. Jésus dit « je suis le vainqueur ». Et celui qui vaincra sera assis avec moi sur le trône dans le ciel. Est-ce que nous voulons être assis avec Christ? Alors on a besoin, chacun d'entre nous, de dire, Seigneur, viens Seigneur, donne-moi un vêtement blanc. Viens Seigneur, viens me revêtir Seigneur de ta grâce. Seigneur, couvre mes fautes par le sang précieux de Jésus-Christ. Et encore Seigneur, permets que ma foi sois purifié, Seigneur. Que je ne sois pas quelqu'un qui croit en toi quand tout va bien. Seigneur, que je ne sois pas quelqu'un qui crie à toi quand tout va mal et que pour le reste vit sa vie comme il entend. Mais Seigneur, que ma vie te soit consacrée entièrement. que je ne sois pas trouvé pauvre, malheureux, misérable, aveugle et nu. Mais qu'à ton retour, Seigneur, je puisse être trouvé, Seigneur, debout, en train de œuvrer, la lampe allumée. Seigneur, que je puisse être trouvé, Seigneur, fidèle. Non pas parce que je suis le plus fort, mais parce que je me suis abandonné complètement à toi. Tu es notre force. Seigneur, que nous puissions encore aujourd'hui te dire, sonde de nous, ô Dieu. Connais notre cœur. Éprouve-nous et connais, Seigneur. Connais, Seigneur, quelles sont nos préoccupations, nos problèmes, nos difficultés, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Regarde si on a pris un mauvais chemin, Seigneur. Ramène-nous, s'il te plaît. Seigneur, use de miséricorde. Seigneur, si on s'est égaré par nos propres pensées, ramène-nous, Seigneur. Afin, Seigneur, de pouvoir hériter de l'éternité avec toi. Merci, Seigneur, encore pour ta parole. Merci encore parce que, Seigneur, tu corriges ce que tu aimes. Ta parole, et nous le dit, tu nous traites comme un père traite ses enfants. Seigneur, ton amour sera toujours là, même quand tu as besoin de nous reprendre. Ton amour sera toujours là, Seigneur. Seigneur, et tes bras sont toujours ouverts pour un enfant qui vient vers toi. Tes bras sont toujours ouverts parce que ton amour, Seigneur, est profond. Seigneur, ton amour est grand et encore aujourd'hui. Tous ceux et celles qui veulent s'approcher de toi, Seigneur, trouveront des bras ouverts. Mais il arrive le temps, Seigneur, où cette grâce ne sera plus là. Non pas parce que, Seigneur, tu ne veux pas sauver, mais parce que tu as donné aussi un temps. Et le temps arrive à son terme. Que nous puissions, Seigneur, être de ceux qui bâtissent sur le roc. Aide-nous, Éternel. Seigneur, merci d'être aussi celui qui donne la force à celui qui est éprouvé. D'être celui qui soutient, celui qui, Seigneur, par l'épreuve, Seigneur, peut-être fléchit le genou. Mais Seigneur, là encore, Seigneur, quand on fléchit le genou, c'est aussi pour nous une manière, Seigneur, de nous dire, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Seigneur, que nos prières, que nos pleurs puissent, Seigneur, paraître devant toi comme un parfum qui s'élève en disant, Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, et mon espérance est en Dieu. Merci encore pour ta fidélité. À toi la gloire et l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu.